Salut à tous, vous écoutez la radio Ernest Feroul. On va tout vous raconter et c'est vraiment cool. La radio qui partage des histoires, même à minuit, histoires de réfugiés, témoignages forts, des voix à faire entendre. Tous ceux qui nous écoutent, j'espère que vous allez comprendre. Des récits, des vécus, un monde à découvrir, web compagnie, radio où chaque histoire va t'épanouir. Reste à l'écoute pour des moments engagés. Aujourd'hui, des réfugiés, on va parler. Antonio Machado, on doit évoquer et leurs conditions assez compliquées.
Du mois de mai 1940 à la fin de 1963, 12 hectares de terre ont été utilisés pour un accueil de réfugiés espagnols. Une capacité énorme avec près de 15 000 personnes dans un seul camp. Il existe dans les régions 4 types de camps. Les camps de concentration, les camps d'hébergement, les camps de triage et les camps spécialisés. Préparez-vous à plonger dans des histoires saisissantes avec le projet Antonio Machado ainsi que des récits marquants. Nous allons maintenant écouter la présentation du camp de Pine et du camp de Bram.
On apprend par une lettre du préfet de l'Aude que la situation des réfugiés espagnols qui avaient fui le régime franquiste, dont les Invalides, ont été internés dans des camps en France, comme celui d'Argelès-sur-Mer. Mais ils étaient traités dans de mauvaises conditions et le camp était surpeuplé. C'est pourquoi le préfet a décidé de les envoyer dans le camp de Bram, plus adapté à leur état de santé. Ils doivent être aidés par le gouvernement français, soit en les renvoyant en Espagne, soit en leur donnant une assistance sociale, comme celle dont disposent les personnes âgées, les infirmes et les incurables.
Ce lettre a été fait à Tulle le 9 septembre 1940 à la préfet de la Corrèze pour le préfet de l'Aude à Carcassonne. Il explique qu'il y a une compagnie de prestataires espagnols stationnés dans son département qui doivent être transférés. Les femmes, enfants et parents de ces prestataires doivent aussi être déplacés. Ces familles espagnoles ne pouvaient pas aller à Dordogne suite à les rapports sur la situation des réfugiés. Donc, la préfecture de la Corrèze ont demandé de transférer les réfugiés dans les camps de Bram à Carcassonne.
On a pu observer également que les familles de réfugiés étaient accueillies à Bram grâce à un registre du camp dans lequel se trouvait l'identité des enfants ainsi que de leurs parents s'ils se trouvaient ailleurs en France. Comme Carlos Ibáñez Martínez, dont le père Manuel Ibáñez Galvez se trouvait à Montigny-Salaez chez Madame Cazin.
Le camp de Bram est situé à la commune de Montréal. Il abrite des réfugiés militaires espagnols dans 170 baraquements capables d'abriter de 90 à 100 hommes chacun. Le camp est composé de plusieurs réseaux, un d'assainissement et un de distribution d'eau potable, ainsi qu'un poste de téléphone pour pouvoir contacter l'extérieur, une infirmerie servant aux malades et ou aux blessés, 10 groupes de cuisine et 10 quartiers délimités par des clôtures de fil de fer barbelés. Le camp comporte plusieurs baraquements spéciaux, dont 4 pour le logement des gardes mobiles à l'ouest et 1 pour les bureaux. Un mirador central est présent pour surveiller également un parloir à l'entrée du camp pour recevoir quelques visites. Les clôtures ainsi que certains aménagements sont faits en main-d'œuvre d'Espagnols. Il faut aussi préciser que le camp est constitué de telle sorte à ressembler à un parallélogramme. Les cuisines dont j'ai parlé proposent des groupes particuliers pour les réfugiés. Il y a aussi des sortes de bandes de terrain qui sont utilisées en tant que chemin de ronde pour les gardes du camp. On remarque aussi qu'il y avait 3 types de baraques. Les premières qui sont les plus utilisées, dues à leur légèreté et leur praticité. Le troisième qui est un peu plus renforcé que le premier avec de l'aluminium. Et enfin, le quatrième qui est le plus renforcé. Il y a aussi des matériaux pour contrer les incendies, tels des extincteurs et des camions citernes.
Après avoir été accueillis au camp, les réfugiés se sont vus attribuer différentes tâches. Nous allons donc maintenant en parler.
Bonjour, notre groupe a travaillé sur les conditions de travail dans le camp de Bram, qui anciennement accueillait les exilés de la Retirada. D'après nos études et recherches sur des archives de documents administratifs, les réfugiés qui étaient en capacité de travailler avaient chacun un poste attribué. Il y avait environ 50 enfants âgés de 14 à 16 ans, et les adolescents qui ont tous des parents situés dans des endroits différents, les mères à Argelès et les pères au camp de guerre.
Les mutilés, qui sont des personnes avec un membre en moins ou défiguré, les femmes et les hommes ont tous un travail adapté à leur capacité physique. Les enfants ne font rien dans le camp, Tous ces réfugiés ont tous un emploi du temps avec des horaires identiques, mais des lieux de travaux différents, comme par exemple le débroussaillement du contre-canal de Mézéran ou le curage du contre-canal de Saint-Jean. Sur chacun de ces lieux qui peuvent se trouver en dehors ou à l'extérieur du camp, il y a un nombre de réfugiés et des dates déterminées.
Les réfugiés les plus malades qui sont en incapacité de travailler sont renvoyés en Espagne ou bien hospitalisés. On en compte environ 90. Dans le camp de Bram, on compte environ 250 adultes, 110 mutilés qui travaillent en tant qu'agriculteurs ou bergers et le reste qui travaillent pour l'intendance de la boulangerie de manutention militaire ou autre. 50 autres adultes travaillent pour la construction des baraquements des prochains réfugiés pour qu'ils soient prêts à être accueillis.
Tous ces travaux sont organisés par la direction des services agricoles de l'Aude. Chaque réfugié qui travaille dans le même groupe, comme par exemple les bûcherons, ont tous un quartier d'affectation et un numéro de baraque différent afin d'éviter qu'ils travaillent mal s'ils créent des liens. Si les réfugiés ont un bon comportement tout le long de leur internement, une autorisation de sortie leur est fournie par le commissariat spécial de Carcassonne avec des informations importantes sur le réfugié.
Il existait deux types d'autorisations, les autorisations temporaires où le réfugié a le droit de sortir qu'une durée déterminée à une seule adresse, certainement pour aller travailler hors du camp, et les autorisations permanentes qui leur sont données par le capitaine qui dirige le camp. On en conclut donc que le camp de Bram est un camp pour main-d'œuvre agricole qui exploite des réfugiés en les faisant travailler et en les logeant dans de mauvaises conditions, de préférence dans des départements de montagne.
Nous savons maintenant qu'ils effectuaient des travaux, mais ils avaient aussi des loisirs, et c'est Adélie qui nous en parle.
Pour vous en parler, nous avons analysé divers documents des archives témoignant des activités qu'il y avait au camp de Bram. On a retrouvé une lettre de recommandation, des lettres en français et en espagnol, un poème et une photographie. Dans les camps de Bram, les enfants bénéficiaient d'une éducation rudimentaire, comme l'atteste un document répertoriant les différentes classes existantes, ainsi que les matières proposées aux enfants.
Dans ce document, écrit le 12 juin 1940 par le chef d'escadron Ramel, le commandant du camp, on apprend que les jeunes filles comme les jeunes garçons pouvaient dessiner ou pratiquer des jeux en plein air, comme du sport par exemple. Les cours étaient alternés car non mixtes et les élèves très nombreux. Les classes étaient organisées de 8h à 11h et de 14h à 17h, mais il n'y avait pas d'emploi du temps plus précis. De plus, nous n'avons pas retrouvé de documents prouvant qu'ils apprenaient du français ou des mathématiques. Les jeunes filles pouvaient aussi suivre en cours de couture. Il y avait également des classes enfantines qui étaient mises en place pour les enfants de moins de 6 ans pour maintenir une organisation. Tous ces enfants avaient donc un emploi du temps à suivre, très encadré, par peu de professeurs qui étaient très jeunes.
Ensuite, une lettre espagnole datant du 7 avril 1939 parle de la création d'un club de foot entre les réfugiés du baraquement A. On ne connaît pas l'auteur de la lettre. Par contre, elle fait référence au camp de Bram proposant de demander du matériel pour le club. Il y avait donc bel et bien un club à Bram. Nous apprenons dans une seconde lettre de sondage rédigée par le chef Ramel que le camp souhaite mettre en place le catéchisme et la messe. 41 parents souhaitaient faire du catéchisme à leurs enfants et 31 hommes et 78 femmes voulaient assister à la messe du camp.
Ils pouvaient participer à des concerts. On a retrouvé un programme de concert du 9 avril 1939 par l'orchestre du camp de Bram. Ils écrivaient des poèmes tels qu'un hymne du camp datant du 25 mars 1939, intitulé « Moment de nostalgie ». Les hommes travaillaient dans le camp et passaient leurs pauses dans des anciennes étables, comme le montre une ancienne photo représentant des réfugiés qui lisent le journal et écrivent tout en étant surveillés par des gendarmes français. On a pu voir que les réfugiés espagnols se divertissaient à l'aide de la musique, une information confirmée à travers une lettre du réalisateur José Luis Sáenz de Heredia du film poétique La Hija de Juan Simón. Cette lettre parle de la passion pour l'Espagne mais aussi de celle du chant. Le réalisateur exprime tout cela pour montrer comment les gens dans les camps arrivent à oublier les horreurs du camp en chantant. Ils chantent malgré la faim pour ne pas penser aux mauvaises conditions de vie.
Malgré les loisirs accordés dans le camp, les conditions de vie restaient difficiles. Pacom, peux-tu nous en dire plus ?
Notre groupe a travaillé sur la survie des réfugiés espagnols au camp de Bram. Nous nous sommes aidés de photos prises par l'administration française, des menus du centre d'hébergement du camp et des penses bêtes pour que les gendarmes français puissent parler aux réfugiés espagnols. La première partie de notre exploration nous conduit au cœur du camp, où les réfugiés espagnols s'efforcent de maintenir une hygiène minimale, lavant leurs vêtements dans un lavoir surchargé, vêtus chaudement malgré leur situation précaire. Ils partagent non seulement des ressources limitées, mais aussi un espace de vie commun, symbolisé par les grandes baraques en arrière-plan.
Les livraisons régulières de pain, la principale denrée alimentaire, rythment la vie au camp de Bram. Déchargées par les prisonniers sous la vigilance des gendarmes, ces livraisons massives étaient un spectacle courant. Les pains, loin des normes actuelles, étaient ronds et énormes, jetés dans des grands draps pour maximiser la réception. Un homme mieux habillé, peut-être le préfet, représentait l'autorité départementale.
Le quotidien au camp est gouverné par des règles strictes, énoncées en français. Nous avons découvert sur certains documents une traduction en espagnol, sûrement pour que les gendarmes français puissent parler aux réfugiés. Les expressions telles que « avancer » et « reculer » étaient cruciales pour maintenir l'ordre du camp, là où « se faire comprendre » était essentiel.
Les réfugiés partagent des lits, une place dans des baraques surpeuplées, posant des défis supplémentaires à leur qualité de sommeil. Les dons qui sont acheminés par la préfecture pour éviter tout contact direct comprennent des vêtements, des couvertures, des denrées alimentaires et même des médicaments. Les repas, bien que semblant équilibrés, offrent des portions insuffisantes pour des individus en bonne santé, avec des moments de réconfort tels que le déjeuner diversifié chaque matin.
Ces documents nous font découvrir les luttes, les rares moments de répit et la survie des réfugiés espagnols, qui étaient restreints à une forte autorité par les gendarmes français et soumis à des conditions de vie difficiles dans le camp.
Après avoir vu la survie au camp de Bram, il me semble important de parler des conditions d'hygiène.
Au cœur du département de l'Aude, le camp de réfugiés de Bram suscite une attention urgente en raison de conditions de vie précaires et de défis sanitaires déconcertants.
La lettre émanant du préfet expose la gravité de la situation, mettant en lumière des baraquements dépourvus d'isolation, des infrastructures médicales défaillantes et des besoins essentiels en mobilier médical.
Face à cette réalité pressante, cette correspondance appelle à une action immédiate pour améliorer la qualité de vie et la santé des résidents du camp.
La lettre du préfet du département de l'Aude expose les besoins urgents du camp de réfugiés de Bram, notamment en termes de mobilier médical. Le camp, divisé en 9 quartiers, fait face à des conditions de vie extrêmement difficiles. Les baraquements dépourvus d'isolation exposent les réfugiés, tandis que les maladies, telles que la tuberculose et les infections intestinales, se propagent rapidement. Les deux infirmeries existantes présentent des défaillances, notamment l'absence de chauffage dans l'infirmerie des hommes et des problèmes d'étanchéité dans celles réservées aux femmes et aux enfants.
Le système d'approvisionnement en eau est complexe, avec deux puits et un mécanisme de vannes permettant l'alimentation totale du camp. Cependant, le nettoyage des puits avec un système de goutte à goutte de Javel est mentionné, soulignant les efforts pour maintenir des conditions sanitaires minimales. En ce qui concerne les besoins spécifiques mentionnés dans la lettre, le camp propose la vente de tables de nuit et de brancards, tous fabriqués sur place.
Les tables de nuit en bois solide équipées de tiroirs et d'une tablette sont proposées au prix unitaire de 70 francs. De même, des brancards similaires à ceux utilisés dans l'armée sont disponibles au même prix. Le préfet insiste sur la nécessité d'une réponse rapide et précise, que les paiements peuvent être effectués à la commande ou à la réception par chèque postal.
En conclusion, la situation critique du camp de concentration de Bram est clairement exposée, mettant en évidence les besoins en mobilier médical et les conditions de vie difficiles. La lettre du préfet souligne l'urgence d'une action pour améliorer la situation sanitaire et logistique du camp, soulignant les défis rencontrés par les réfugiés et la nécessité d'une réponse rapide de la part des autorités compétentes. Après avoir vu en détail comment fonctionnait le camp de Bram, nous allons voir si le fonctionnement est le même avec la colonie de Sigean. Après avoir entendu comment les réfugiés entraient au camp et y vivaient, nous allons maintenant essayer de comprendre de quelle manière ils en sortaient.
Nous avons retrouvé des archives qui parlent des camps de réfugiés espagnols en France avant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons découvert des listes de noms classées par ordre alphabétique et par numéro de baraque. On en a déduit que les Espagnols avaient trouvé des techniques pour quitter les camps. Nous allons vous en présenter quelques-unes.
Les Espagnols rejoignaient la Légion étrangère pour faire l'armée et partir des camps, comme on a pu le voir le 10 juin 1939, avec 16 Espagnols qui ont rejoint la Légion étrangère. Ils rejoignaient la Légion étrangère car n'importe qui peut l'intégrer.
Parfois même, ils demandaient des sauf-conduits pour aller au Mexique,
comme on a pu le voir dans les archives du 6 juin 1939, avec 39 réfugiés espagnols qui ont eu un sauf-conduit pour aller au Mexique. Les sauf-conduits sont des laissés-passer pour partir du pays. Les réfugiés espagnols sont allés au Mexique car là-bas, le gouvernement de Franco ne pouvait pas les retrouver.
Des fois, ils pouvaient être envoyés chez eux. Ça a été le cas pour 33 d'entre eux. Malheureusement, nous n'avons pas de date pour cette archive. Ils étaient renvoyés chez eux sous condition, par exemple, s'ils avaient de la famille pour pouvoir les accueillir.
S'ils commettaient des crimes ou des délits, ils pouvaient être envoyés au commissariat où des sanctions pouvaient en suivre, comme l'expulsion du camp. Ils étaient mis dans des camps avec une autorité plus stricte. Cela fut le cas le 26 janvier 1940 pour 3 réfugiés. Nous avons également trouvé des dossiers sur l'évasion des réfugiés. Le rapport du 9 au 10 novembre 1940. Dans ce dossier, on découvre seulement que les autorités avaient publié une description du suspect afin de le retrouver. On peut en déduire que les autorités ne voulaient pas que l'espagnol se déchaîne.
Merci de nous accueillir. Il y a 5 ans, un album contenant 300 photographies d'enfants réfugiés de la guerre civile espagnole a été publié. Il a permis de connaître pour la première fois les détails de la colonie qui a accueilli 150 enfants à Sigean, dans le sud de la France. Cette colonie a été créée en mai 1939 au château du Lac. Et Ruth, une femme importante, faisait partie jusqu'à sa mort de la fonction publique internationale, qui était un groupe suisse qui aidait les enfants réfugiés.
Pour revenir au château du Lac, c'est une demeure du XIXe siècle. Louée par l'aide suisse du comte de Larenti, on peut en retrouver plusieurs photos et archives, notamment un journal allemand qui se trouve dans les archives de l'université de Zurich. Il y a aussi Maria Solsona, qui s'était réfugiée au château du Lac à ses 11 ans et qui a ensuite gardé quelques photos qu'on lui a données en partant.
Ces photos sont aujourd'hui à l'exposition commémorative du camp de Sigean. Un album photo a été confectionné où nous retrouvons une photo de Maria Solsona qui ne voit plus le camp comme une expérience dramatique, mais comme une expérience d'apprentissage. Dans le camp, les enfants disposaient d'enseignants et d'une école où les enfants découvraient de nouvelles choses qu'ils ne connaissaient pas, telles que de la pâte à modeler. Certains parents faisaient en sorte d'envoyer leurs enfants dans des colonies pour leur éducation. Dans les archives qui ont été retrouvées, dont Maë a brièvement parlé, il y a des registres de déportation France-Espagne organisés dans le comité suisse d'aide aux enfants. Ça se passe entre début juin 1939 et mai 1940. On constate que ce sont presque toutes les mêmes informations sur ces papiers. Il y a surtout beaucoup d'enfants, souvent âgés entre 4 et 16 ans, et il y a aussi quelques bébés avec leur mère.
On lit plusieurs informations sur les registres, comme des dates qui correspondent à celles d'arrivée et de départ des enfants dans le camp. On y lit aussi des informations complémentaires, telles que les lieux d'où viennent les enfants en cas d'arrivée dans le camp et les lieux vers lesquels ils doivent se rendre en cas de départ. Certaines correspondent également aux dates de départ et d'arrivée des membres du personnel. Parmi eux, on trouve des professeurs chargés d'éduquer les enfants. On rencontre aussi des cuisiniers chargés de nourrir les enfants et enfin des infirmières afin de les soigner en cas de blessure. Il est possible également de voir inscrits des informations concernant les parents des réfugiés. Certains parents envoient d'ailleurs des courriers pour demander des nouvelles de leurs enfants.
Merci de nous avoir écoutés et merci à tous les élèves qui se sont impliqués dans le projet et dans la recherche pour le camp de Bram et de Sigean.